Mon exposé va porter sur la question de l'efficacité de l'explicitation et de la mémoire didactique sur les apprentissages. Alors, cet exposé est le résultat d'un travail, du travail d'un sous-groupe qui se consacre à cette question, au nom duquel je prends la parole aujourd'hui. Alors, je vais d'abord citer deux sources théoriques principales qui vont expliquer pourquoi nous nous intéressons à cette question. Différents courants théoriques, en effet, permettent de mettre en évidence l'importance pour la réussite des apprentissages de ce qui permet aux élèves, dans des tâches auxquelles ils sont confrontés, d'identifier les savoirs, les stratégies à mettre en œuvre dans l'activité, les enjeux de ce qu'ils font. Et donc, nous nous sommes appuyés sur ces champs de recherche, et je vais en citer deux très très rapidement. La psychologie et la sociologie. Alors, en psychologie, nous nous appuyons, entre autres, sur la définition de deux notions qui nous semblent importantes. La première, c'est la notion de métacognition. Donc, il s'agit, comme vous le voyez sur cette diapositive, d'un ensemble de connaissances et de processus de régulation qui permettent de prendre du recul par rapport à ses propres processus mentaux et aux données de l'apprentissage. Des recherches ont montré l'importance de cette métacognition pour favoriser les apprentissages des élèves. En effet, si les apprentis lecteurs analysent comment ils apprennent, ils peuvent identifier les stratégies les plus efficaces et les adopter. Et l'explicitation peut être un moyen d'accéder à ces stratégies. L'autre notion que nous avons, sur laquelle nous nous sommes appuyés, c'est la notion issue de travaux anciens, c'est la notion de clarté cognitive. Cette notion dit que deux facteurs favorisent l'apprentissage de la lecture. D'une part, la compréhension des fonctions de l'écrit, et d'autre part, la compréhension du fonctionnement de l'écrit. Donc, pour rappel, j'ai donné deux exemples. Comprendre les fonctions de l'écrit. Donc, par exemple, savoir que quand on lit, on peut se tenir informé des événements du monde. Comprendre le fonctionnement de l'écrit, par exemple, ça signifierait savoir qu'en français, il y a des graphèmes qui se prononcent, d'autres qui ne se prononcent pas. Donc, il nous semble que l'explicitation de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait est un moyen de favoriser la clarté cognitive dans l'apprentissage de la lecture-écriture. En sociologie, nous nous sommes appuyés sur des travaux. Alors, ce que je présente, c'est très très schématique, mais en gros, nous avons retenu les trois points suivants. Tout d'abord, entrer dans l'écrit suppose une série de conceptualisations qui nécessitent une mise à distance du langage. Cette mise à distance du langage, et là on retrouve l'idée de la métacognition, l'idée de la réflexivité, n'est pas qu'une disposition cognitive, elle a une dimension sociopolitique. Et là, nous nous référons aux travaux de Bernard Lahire. Donc, elle correspond à l'habitus de la classe sociale dominante et est difficile pour les enfants de milieux populaires. Nous nous sommes appuyés également sur les travaux menés au sein du groupe ESCOL, et en particulier aux travaux de Stéphane Bonnery, qui dit que les savoirs visés sont peu identifiables pour beaucoup d'élèves issus des milieux défavorisés. Et nous nous sommes appuyés aussi sur les travaux de Bernstein, avec sa pédagogie invisible, donc pédagogie invisible qui dit que l'implicite peut nuire aux élèves, peut préparer aux situations scolaires par leur socialisation familiale. Donc il existe une convergence entre toutes ces recherches, même si leurs cadres sont très différents. En effet, au-delà de cette hétérogénéité, elles insistent toutes sur le fait que l'explicitation est un facteur important pour lutter contre les difficultés des élèves. Donc, notre hypothèse principale a été la suivante. L'explicitation sous différentes formes peut avoir un rôle dans la réussite des apprentissages, notamment pour les élèves les plus faibles et pour les moins à l'aise socialement et culturellement avec les pratiques scolaires. Alors, pour explorer cette hypothèse, nous avons pris quatre indicateurs. L'explicitation en pourquoi, l'explicitation en comment, ce que nous avons appelé la mémoire didactique 1 et la mémoire didactique 2. Donc, je vais présenter ces quatre indicateurs. D'abord, je vais parler de l'explicitation en pourquoi. Donc, elle concerne, cette explicitation, les finalités de la tâche, pourquoi on fait telle ou telle chose. Alors, j'ai donné un exemple également. C'est une enseignante qui dit la chose suivante. Alors, je commence à lire, j'en lis un tout petit bout. Ensuite, comme on apprend à lire avec Gaffi, lire avec Gaffi, c'est aussi lire avec des albums. On apprend à lire avec Gaffi pour pouvoir après lire des albums. Donc l'enseignante explicite les finalités de la tâche. On apprend à lire avec Gaffi pour ensuite pouvoir lire soi-même des albums. Deuxième indicateur, c'est l'explicitation en comment. Donc là, il s'agit d'expliciter les procédures, les stratégies, les connaissances à mettre en œuvre pour accomplir telle ou telle tâche. L'exemple montre une explicitation de comment préparer une lecture à haute voix d'un texte. L'enseignante dit, quand vous allez avoir votre morceau de texte, vous allez donc essayer de le déchiffrer d'abord. Est-ce qu'on fait seulement déchiffrer uniquement ou est-ce qu'après, il va falloir reprendre la lecture pour être capable de lire devant les autres? Donc, il faut le répéter plein de fois, comme on fait quelquefois. Donc là, l'enseignante explicite comment préparer une lecture à voix haute d'un texte. Il ne faut pas le lire qu'une fois, mais plusieurs fois. Alors maintenant, la mémoire didactique 1, enfin ce que nous avons appelé MD1. Alors cette mémoire didactique a été considérée comme une tâche, quelque chose qui pouvait être demandé aux élèves, et une tâche à fonction explicitante. Alors, mémoire didactique en début de séance, il s'agit d'expliciter où se situe la séance par rapport aux autres, en la rattachant à une séance précédente et ou en annonçant le contenu de celle qui va se dérouler. Donc l'exemple qui est donné ici, avec un échange entre une élève et l'enseignante, montre que la leçon à venir est située par rapport à un apprentissage antérieur qui est rappelé à la mémoire des élèves. Deuxième type de mémoire didactique, c'est la mémoire didactique 2, donc en fermeture de séance. Et il s'agit d'expliciter ce qui a été appris lors de la séance qui vient d'avoir lieu. Alors là, les didacticiens parlent souvent d'institutionnalisation, orale ou écrite. Et là, j'ai reproduit sur cette diapositive un exemple qui montre un moment d'institutionnalisation à la fin d'une séance, d'une stratégie de lecture. Il s'agit de reconnaître immédiatement des petits mots signalés en jaune dans un manuel. Alors, je vais donner quelques résultats descriptifs qui sont réunis dans un article à paraître, un article écrit par les membres de ce groupe. Alors, premier élément descriptif, ça concerne la présence de l'explicitation et de la mémoire didactique dans les pratiques. Dans les 131 classes de CP observées, on a constaté que l'explicitation était présente, mais de façon limitée, et qu'il y avait très peu de moments consacrés à la mémoire didactique. Alors, je vais d'abord parler de ce qui concerne l'explicitation. Alors, à propos de l'explicitation, tout type d'explicitation confondu. Alors, vous avez dans la rubrique, enfin dans la colonne variable, nombre d'explicitations par semaine. En fait, le E signifie tout type d'explicitation confondu, donc explicitation en pourquoi et comment. Et par ailleurs, en fait, on a codé le nombre de tâches où figurait de l'explicitation. Donc, on voit qu'en moyenne, les enseignants ont explicité 24,52 fois par semaine, c'est-à-dire que c'était présent dans 24,52 tâches par semaine. On voit avec l'indication de la médiane que les enseignants explicitent peu dans l'ensemble, puisque la moitié d'entre eux explicitent moins de 19,67 fois par semaine sur les 3 semaines. Alors, en ce qui concerne la mémoire didactique, si nous disons qu'elle est peu présente dans les pratiques, c'est par rapport à ce que l'on trouve et dans les discours, prescriptifs, qu'il s'agisse des textes officiels ou des discours tenus en formation. Alors, on remarquera notamment la faible présence de MD2, c'est-à-dire d'institutionnalisation de mémoire didactique destinée à clore les séances. Il y a un recours à la mémoire didactique beaucoup plus faible en fin de séance, près de 4 fois plus faible en fin de séance qu'en début de séance. Donc il y a un recours à la mémoire didactique beaucoup plus faible pour institutionnaliser le savoir qu'en début de séance pour rappeler des connaissances antérieures. Alors, maintenant, je vais parler de la variabilité de la présence de l'explicitation et de la mémoire didactique, qui est assez importante. Et je vais commencer par parler de l'explicitation. Alors, première variabilité, c'est la variabilité en fonction des classes. Si l'on prend en compte tout type d'explicitation, au cours des 3 semaines d'observation, les enseignants qui ont le moins explicité l'ont fait une fois par semaine, tandis que ceux qui ont le plus explicité l'ont fait 85,67 fois par semaine. L'explicitation varie aussi beaucoup en fonction des semaines d'observation. Ainsi, les enseignants explicitent davantage en début d'année qu'aux 2 trimestres suivants. L'hypothèse que l'on peut avancer est que les élèves, au cours de l'année, sont supposés se familiariser avec les objets de savoir et les stratégies, ce qui expliquerait que les enseignants explicitent de moins en moins. Troisième variabilité, c'est la variabilité dans les types d'explicitation. On voit dans ce tableau que les explicitations en comment sont les plus utilisées et que les explicitations en pourquoi sont 5 fois moins nombreuses. Ainsi, alors que les élèves ont l'occasion de savoir comment réaliser les tâches proposées en moyenne 15 fois dans une semaine, ils n'ont que rarement, moins de 3 fois, l'occasion d'en connaître les objectifs. Enfin, pour clore sur la variabilité dans l'explicitation, cette dernière dépend de la famille de tâches. Alors, à ce propos, je ferai 3 remarques. La première, c'est que les occurrences d'explicitation sont très inégalement réparties selon les familles de tâches dont on vous a parlé ce matin. Ce sont les tâches de la famille ou de la catégorie écriture qui donnent le plus souvent lieu à explicitation. Suivent les tâches de phonographie et de lecture. Alors, ce résultat descriptif a son importance dans ce que nous dirons ensuite de l'efficacité de l'explicitation. La deuxième remarque, c'est que lorsque l'on compare la répartition des occurrences d'explicitation à la répartition du temps moyen d'enseignement alloué aux différentes catégories de tâches dans les classes observées, on constate que l'ordre de grandeur est pratiquement le même. En effet, les maîtres observés consacrent le plus de temps en premier lieu aux tâches d'écriture, puis aux tâches de phonographie et de lecture. Enfin, 3e remarque, à propos de cette variabilité des occurrences en fonction des familles de tâches, c'est qu'il y a une diminution progressive du nombre d'explicitations d'une semaine d'observation à l'autre. Seule la catégorie compréhension fait l'objet d'une augmentation du nombre d'explicitations au cours de l'année. Alors, j'ai parlé d'explicitation et maintenant je vais parler de la mémoire didactique. Outre le peu de présence de mémoire didactique dans les pratiques, on peut constater dans ce tableau la disparité des pratiques d'une classe à l'autre. Par exemple, l'enseignant qui pratique le plus des phases d'institutionnalisation, donc MD2, le fait 5 fois, ce qui est peu, mais ce qui est 5 fois plus que l'enseignant qui n'en fait pas du tout. Alors, variabilité en fonction des semaines d'observation. Alors, toujours à propos de la mémoire didactique, on va remarquer qu'il y a de moins en moins de recours à la mémoire didactique d'une semaine d'observation à l'autre, et qu'il y a une chute plus importante des occurrences entre la 2e et la 3e semaine d'observation. Il y a toujours donc cette quasi-inexistence de MD2, c'est-à-dire de pratique d'institutionnalisation des nouveaux savoirs tout au long de l'année. À ce propos, la moyenne des tâches MD2 fluctue entre 0,53 et 1,03 par classe, et 50% des classes n'effectuent aucune tâche d'institutionnalisation lors des deux dernières semaines d'observation. Enfin, à propos de la mémoire didactique, il y a également une variabilité selon les familles de tâches. Les tâches associées au travail sur les correspondances graphiphonie et puis celles qui sont associées à l'étude de la langue sont celles pour lesquelles on fait le plus de rappels et pour lesquelles on institutionnalise le plus. Mais c'est vraiment à relativiser dans la mesure où le nombre des occurrences est très faible. Et pour les autres tâches, les moyennes sont encore plus faibles. Alors ça, ce sont des résultats descriptifs. Maintenant, en termes d'efficacité. Alors déjà, je voudrais dire que dans notre sous-groupe, nous n'avons pas encore beaucoup avancé sur la question. Ce que nous avons comme réponse actuellement, comme résultat, c'est que il n'y a pas d'effet significatif de la présence d'explicitation ou de mémoire didactique sur la progression des élèves dans les tâches d'évaluation. Hein? C'est-à-dire que si l'on compare les performances des élèves en début et en fin d'année de CP, il n'y a pas d'effet significatif de l'explicitation ou de la mémoire didactique dans les pratiques, ce qui est un résultat en soi. En même temps, cette absence d'effet significatif est sans doute due au fait qu'il y a peu d'explicitation et de mémoire didactique dans ces pratiques. Alors, comme il n'y avait pas d'effet sur l'évolution des performances des élèves dans les évaluations, nous sommes allés voir si l'efficacité de l'explicitation dépendait de la famille de tâches. Nous avons laissé la mémoire didactique de côté, car elle était trop peu présente dans les pratiques, et voilà ce que nous avons trouvé comme résultat. À caractéristiques des classes et des enseignants constantes, et à caractéristiques des élèves et niveaux initiaux constants, on a noté qu'un effet du nombre d'explicitations durant des tâches d'écriture sur la progression en code et sur la progression en compréhension. Alors, je vais terminer cette intervention en revenant sur des pistes de recherche que nous nous donnons. Donc, la famille des tâches d'écriture étant très, très vaste, il nous faut spécifier dans quelles tâches d'écriture il y a le plus d'explicitation et voir lesquelles ont une influence sur la progression en code et en compréhension. Par ailleurs, il nous faut voir aussi ce qu'il en est dans les autres familles de tâches, graphiphonie, compréhension, lecture, étude de la langue. Et puis... Notre hypothèse supposait l'efficacité de l'explicitation pour la réussite des apprentissages des élèves les plus faibles et des élèves les moins à l'aise socialement et culturellement avec les pratiques scolaires. Donc ces deux questions n'ont pas été traitées encore par le sous-groupe et... ces deux questions restent d'actualité pour nous, c'est-à-dire que nous devons travailler sur ces deux points. Voilà, merci.